Ok. Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 28 de la synthèse des yogas number 2, le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin, traduit de l'anglais par Mère, écrit par Sri Aurobindo. Le corps physique reproduit la disposition du corps psychique avec sa colonne vertébrale comme une tige et ses centres ganglionnaires semblables aux chakras qui s'échelonnent de la base de la colonne vertébrale où est attaché le centre le plus bas jusqu'au cerveau où se trouve la terminaison dans le lotus aux 1000 pétales ou Brahmarandra, au sommet du crâne. Toutefois, ces chakras ou lotus sont fermés dans l'homme physique, où ils ne sont que partiellement ouverts, ce qui fait que seuls sont actifs en lui le genre et la quantité de pouvoir qui suffisent à la vie physique ordinaire et que seule intervient la quantité de mental et d'âme qui s'accorde à ses besoins. Du point de vue mécanique, c'est la raison véritable pour laquelle l'âme incarnée semble tellement dépendre de la vie corporelle et nerveuse, bien que cette dépendance ne soit ni si complète ni si réelle qu'elle le semble. L'énergie de l'âme n'est pas entièrement active dans le corps et dans la vie physique. Les pouvoirs secrets du mental ne sont pas éveillés. Les énergies corporelles et nerveuses prédominent, et cependant, tout le temps, l'énergie suprême est là, endormie. On dit qu'elle est levée et somnolente, tel un serpent. C'est pourquoi on l'appelle Kundalini Shakti, dans le chakra le plus bas, ou Muladhara. Quand le pranayama dissout la cloison qui sépare les courants supérieurs et inférieurs du prana dans le corps, cette Kundalini reçoit un choc et s'éveille. Et elle se déroule et commence à monter, tel un serpent de feu. En décelant chaque lotus à mesure qu'elle s'élève, jusqu'à ce que la Shakti rencontre le Purusha dans le lotus aux 1000 pétales Brahmarandra, en un samadhi d'union profond. Pour employer un langage moins symbolique et plus philosophique, mais peut-être moins pénétrant, nous pouvons dire que l'énergie réelle de notre être est endormie et inconsciente dans les profondeurs de notre système vital et qu'elle s'éveille par la pratique du pranayama. Quand elle se déroule, elle ouvre tous les centres de notre être psychologique, où résident les pouvoirs et la conscience de ce qu'on appellerait peut-être maintenant notre moi subliminal. Par conséquent, à mesure que s'ouvrent les centres de pouvoir et de conscience, nous avons accès à des plans psychologiques successifs et nous sommes capables d'entrer en communication avec les mondes et les états d'être cosmiques qui leur correspondent. Tous les pouvoirs psychiques anormaux pour l'homme physique, mais naturels à l'âme, se développent alors en nous. Finalement, au sommet de son ascension, Cette énergie montante en expansion rencontre le moi supraconscient caché au-dessus et derrière notre existence physique et mentale. Cette rencontre provoque un profond samadhi d'union et notre conscience de veille se perd dans le supraconscient. Donc, par une pratique minutieuse et sans relâche du pranayama, le hatha yogi parvient à sa manière aux résultats psychiques et spirituels que d'autres yogas obtiennent par des méthodes psychiques et spirituelles plus directes. La seule aide mentale qu'il y ajoute est l'usage du mantra, syllabe sacrée, nom et formule mystique, qui joue un si grand rôle dans les systèmes du yoga indien qui leur est commun à tous. Le secret du pouvoir du mantra, des six chakras et de la Kundalini Shakti est l'une des vérités centrales de cette science psychophysique et de ces pratiques complexes dont la philosophie tantrique dit nous donner un exposé rationnel et le recueil méthodique le plus complet. Toutes les religions et les disciplines de l'Inde qui font largement appel à des méthodes psychophysiques dépendent plus ou moins du tantrisme dans leur pratique. Le Raja Yoga aussi se sert du pranayama et aux mêmes fins psychiques principales que le Hatha Yoga, mais peut-être son système est entièrement psychique de principe. Il ne l'utilise que comme une étape dans la série de ses pratiques et d'une façon très limitée à 3 ou 4 usages généraux. Il ne part pas de l'asana ni du pranayama, mais insiste d'abord sur la purification morale de la mentalité. Cette pratique préliminaire est d'une extrême importance. Sans elle, le reste du Raja Yoga risque d'être troublé, gâté et plein de périls inattendus, mentalement, moralement et physiquement. D'après le système classique, cette purification morale se divise en 2 catégories, les 5 yamas et les 5 niyama. Les yamas sont des règles de maîtrise de soi dans la conduite morale, comme de dire la vérité, de s'abstenir de faire du mal, de tuer, de voler, etc. En fait, ces règles dénotent simplement une nécessité plus générale de maîtrise de soi et de pureté morale. Plus largement, yama désigne aussi cette discipline de soi qui tente à conquérir l'égoïsme rajasique, ses passions et ses désirs dans l'être humain, et à les tranquilliser jusqu'à la parfaite cessation. Le but est de créer un calme moral, un vide de passion, et de préparer ainsi la mort de l'égoïsme dans l'être humain rajasique. Les niyamas sont également une discipline mentale fondée sur des pratiques régulières dont la plus haute est la méditation sur l'être divin. Leur but est de créer un calme sattvique, une pureté, une préparation à la concentration qui serviront de base et permettront de poursuivre sans danger le reste du yoga. Une fois cette base assurée, la pratique de l'asana et du pranayama commence et peut alors donner des fruits parfaits en soi. Le contrôle du mental et de notre être moral ne fait que mettre notre conscience normale dans les conditions préliminaires correctes. Il ne peut pas amener le développement ni la manifestation de l'être supérieur psychique nécessaire au dessein plus vaste du yoga. Pour parvenir à cette manifestation, il faut desserrer le nœud actuel qui lie l'être mental au corps vital et au corps physique et frayer le passage de l'ascension à travers notre être supérieur psychique afin de parvenir à l'union avec le Purusha supraconscient. On ne peut qu'y parvenir par le pranayama. Quant à l'asana, le Raja Yoga ne l'utilise que dans sa posture la plus facile et la plus naturelle, celle que prend spontanément le corps quand il est assis et recueilli, mais avec le dos et la tête strictement droits, en ligne verticale, afin d'éviter toute déformation de la colonne vertébrale. Le but de cette règle est évidemment liée à la théorie des six chakras et à la circulation de l'énergie vitale entre le Mooladhara et le Brahmarandhra. Le pranayama du Raja Yoga clarifie et purifie tout le système nerveux. Il permet de faire circuler l'énergie vitale d'une façon égale dans tout le corps et de la diriger aussi où l'on veut, suivant les besoins, afin que nous pouvions garder le corps et l'être vital dans un état de santé et de solidité parfaite. Il nous donne la maîtrise des cinq opérations habituelles de l'énergie vitale dans notre organisme et en même temps brise les cloisons habituelles qui limitent notre vie normale aux seules opérations mécaniques ordinaires de la vitalité. Il ouvre entièrement les six centres du système psychophysique et amène dans la conscience de veille le pouvoir de la Shakti et la lumière du Purusha, éveillée, dévoilée en chacun des plans ascendants. Si l'on y ajoute l'usage du mantra, le pranayama fait entrer dans le corps l'énergie divine et prépare autant qu'il facilite la concentration en état de samadhi, couronnement de la méthode Raja Yogique. La concentration Raja Yogique se divise en quatre étapes. Elle commence par retirer le mental et les sens des choses extérieures, puis elle passe à la fixation d'un objet unique de concentration, à l'exclusion de toutes les autres idées, activités mentales, puis à une absorption prolongée du mental en cet objet, et finalement à la complète intériorisation de la conscience, qui peut alors se dégager de toute activité mentale extérieure et se perdre en l'unité du samadhi. Le véritable but de cette discipline mentale est de retirer le mental du monde extérieur et du monde mental afin de s'unir à l'être divin. Donc, pendant les trois premières étapes, il est nécessaire de se servir d'un moyen ou d'un support mental afin que le mental, habitué à courir d'un objet à l'autre, se fixe sur un unique objet et cet objet doit être quelque chose qui représente l'idée du divin. C'est généralement un nom ou une forme ou un mantra qui aide la pensée à se fixer exclusivement sur la connaissance ou l'adoration du Seigneur suprême. Par cette concentration sur l'idée, le mental passe de l'idée à la réalité qu'elle représente et y plonge silencieux, absorbé, unifié. Telle est la méthode traditionnelle. Il y en a d'autres aussi qui sont seulement de caractère ajayogique, puisqu'ils se servent de l'être mental et psychique comme d'une clé. Certaines visent à l'immobilisation du mental plutôt qu'à son absorption immédiate. Telle est la discipline qui consiste tout simplement à observer le mental en laissant son habitude de vagabondage s'épuiser dans une course sans dessein dont il sent que l'on a retiré tout assentiment, toute intention, tout intérêt. Ou cette autre méthode, plus ardue et plus rapidement efficace, qui exclut toute pensée dirigée vers le dehors et force le mental à plonger en lui-même dans une tranquillité absolue, où il ne peut que refléter l'être pur ou disparaître en son existence supraconsciente. Voilà, alors aujourd'hui je termine le Raja Yoga de la synthèse des yogas de Sri Aurobindo du chapitre 28. C'est le yoga de la connaissance intégrale et le yoga de l'amour divin, traduit de l'anglais par mère. Je remercie infiniment pour cette lecture Sri Aurobindo et Douce Mère. Merci Stefano, Ganga Lakshmi.